ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe, présenté aujourd'hui par Patrick PL, diffusé en direct mardi 23 octobre 2007.
Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, le libre journal de la vieille Europe, qui fait bien sûr suite aux chroniques de la vieille Europe qui étaient hébergées dans le libre journal de notre ami et regretté Serge de Bekech. Donc à partir d'aujourd'hui et toutes les 4 semaines, vous aurez le plaisir d'entendre l'actualité politique et géopolitique de l'Europe autour de nos différents chroniqueurs. Dans notre première demi-heure autour de la table, nous allons commenter l'actualité avec Philippe Christel, consultant international, Xavier Van Lier, journaliste, Olivier Lebrun, journaliste et spécialiste des problèmes de défense, et bien sûr votre serviteur Patrick PL. Nous avons un absent de taille, c'est Grégoire Gambier, qui, rassurez-vous, reviendra bien sûr, je pense, le mois prochain. Donc l'actualité est plutôt chargée ce mois-ci, car nous avons eu des élections en Suisse, en Pologne, en Slovénie, et nous nous intéresserons aussi à l'actualité russe. Et si nous avons un peu de temps, nous dirons peut-être un mot du mini-traité européen, mais ça j'en suis pas du tout sûr, suite à la réunion des 27 à Lisbonne. Dans notre deuxième demi-heure, nous parlerons de la double actualité turque avec notre invité Tancred Josran, historien et spécialiste de la Turquie. Mais je pense que vous n'êtes pas... que Tancred n'est pas un inconnu pour les auditeurs de Radio Courtoisie car nous l'avions déjà reçu et il nous fera part de son analyse sur le référendum turc et les tensions aux frontières irakiennes avec le PKK. Et la troisième demi-heure, je vous parlerai de l'actualité culturelle en Europe avec bien sûr les coups de cœur de nos chroniqueurs. Donc nous allons commencer par cette actualité et peut-être aller chez nos amis suisses. Nos amis suisses ont voté dimanche dernier et pour certains analystes en France, on parle d'un véritable tremblement de terre. Car si nous devons prendre simplement le titre du Monde de lundi, la droite ultranationaliste renforce sa position dominante aux élections. Il est intéressant de voir cette mode du fameux ultra. Les ultras sont forcément ultra plus dangereux. C'est la presse française dans toute sa splendeur. Pour ma part, je parlerai de la victoire de l'UDC, qui est l'Union démocratique du centre, qui a fait 29% des voix, alors que les socialistes enregistrent un net recul avec 19,5% et les radicaux 15,6% et une légère amélioration des Verts. Alors, il faut savoir que l'UDC n'est en rien une surprise, car ils avaient déjà obtenu un très bon score en 2003 avec 26,3% et son principal leader, Christophe Blocher, était déjà au gouvernement. Donc, je vous pose la question, d'où vient cette campagne de terreur vis-à-vis de l'UDC et qu'est-ce qu'on peut analyser de cette élection, Xavier Van Lier, Philippe?
Oui, Patrick, sur le remarquable succès de l'UDC, un commentaire, un coup de cœur et peut-être un coup de gueule quand même. D'abord, effectivement, il faut le reconnaître, l'UDC vient de renforcer notablement sa présence au Conseil national de la Confédération helvétique avec un score de 29% des voix, donc qui est un succès, puisque 2003 c'était 26,7%. L'UDC devance largement les autres partis et surtout... ce qui est symbolique chez nos voisins suisses, ce résultat est le résultat le plus élevé jamais obtenu par un parti depuis l'introduction du système électoral en 1919. Et le chef de l'UDC, qui n'est pas Christophe Blocher, c'est sa figure emblématique, mais le patron de l'UDC, c'est Uli Maurer, comme quoi il y a des partis de droite nationale qui savent...
qui ont plusieurs leaders.
Qui a plusieurs leaders et qui savent mettre différents leaders, différents chefs sur la scène médiatique. Uli Maurer triomphait en disant que toute personne opposée à l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne, qui veut payer moins d'impôts, veut davantage de sécurité et moins de criminalité étrangère, avait donc soutenu son mouvement. Ce qui est intéressant à regarder dans le score de l'UDC, c'est que l'UDC a bien évidemment consolidé ses points forts, notamment dans les cantons alémaniques, mais que pour la première fois, l'UDC a créé la surprise en Suisse romande, qui est donc la Suisse plutôt francophone, puisque l'UDC arrive en tête dans le canton de Vaud, dépasse la barre des 20% à Genève et devient la troisième force dans le Jura qui était un canton assez préservé et donc jusqu'alors très réticent. Et donc ce qui confirme que le parti a mené une campagne nationale, ce qui était plutôt une chose inhabituelle en Suisse. Et donc on s'attend maintenant à ce que Christophe Blocher, au nom de l'UDC, obtiennent les dividendes de ce succès électoral.
Surtout qu'il était, il était un peu sur la sellette parce que certains lui demandaient d'être éjecté du gouvernement, ce qui va être quasiment impossible après son succès électoral.
Alors non seulement c'est impossible, mais en plus, il faut reconnaître à nos voisins suisses, même si les médias aux ordres savent eux aussi mener des campagnes de diabolisation, une fois que le résultat tombe, tout le monde revient à la raison et accepte quand même une bonne partie des règles du jeu. Et en l'espèce, la fameuse formule magique. Alors vous savez que le Conseil fédéral suisse repose sur le consensus et que donc le Conseil des ministres, on va l'appeler comme ça, de la Confédération helvétique, c'est une formule magique, deux UDC, deux socialistes, deux radicaux et une chrétienne démocrate. Donc cette formule magique va être reconduite, mais en revanche, l'UDC, donc qui accepte de ne pas modifier ses proportions, l'UDC demande que trois des plus anciens ministres en poste soient sortis de cette combinaison ou ne soient en tout cas pas reconduits. Des exigences inédites qui confirment, a priori, la volonté de l'UDC d'aller plus vite et de bousculer les mœurs politiques en vigueur. Et donc, on peut quand même se féliciter de ce succès. Et j'en viens à mon coup de gueule, peut-être, avant de mentionner le coup de cœur. Le coup de gueule, il vient du fait que on a vu faire les gros titres en France sur la campagne d'affichage du parti suisse, l'UDC. L'UDC a réalisé une affiche qui vise à dénoncer l'immigration massive sur le territoire helvétique. Et sur cette affiche, on voit trois moutons blancs qui sont posés sur une surface rouge marquée d'une croix blanche, symbolisant la Suisse. Et puis, un des moutons blancs repousse d'un coup de patte hors de la frontière. On espère qu'il ne le repousse pas en France, d'ailleurs. Un mouton noir censé représenter un immigré. Et d'ailleurs, du coup, alors tout le monde s'est ému de cette campagne, qui est l'affiche principale de l'UDC. Et alors, si je puis dire, il en est une qui a hurlé avec les loups, puisqu'on parle du mouton suisse, l'image du loup n'est pas fausse, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a pas pu s'empêcher, alors qu'on l'attendait a priori ailleurs, je ne sais où d'ailleurs, mais elle a estimé que la campagne d'affichage du parti suisse UDC visant à dénoncer l'immigration massive était dangereuse, car il y avait un risque d'amalgame entre l'immigration et la couleur de peau, et elle est allée plus loin en expliquant que ce n'est quand même pas Le Pen qui se permettrait ce titre, ce genre de fantaisie, et qui pourrait se permettre les facéties d'un blocher. Alors, nous, Français, évidemment, péniblement, il y a quand même de quoi être ulcéré, parce que c'est vrai, je reconnais, je suis d'accord avec Marine Le Pen, Christophe Blocher, qui organise et qui gagne des référendums, qui siège au gouvernement suisse, qui demande l'abrogation de l'équivalent helvétique de la loi Pleven-Guessot, qui dépasse les 25% dans les sondages et qui est au gouvernement avec son équipe, c'est vrai, c'est pas Le Pen, il y a vraiment une vraie différence. Ça, c'était pour le coup de gueule. Le coup de cœur, une fois n'est pas coutume, c'est pour la société Microsoft. Microsoft, le géant américain des logiciels avec Microsoft.
Ah oui. Microsoft, vous voulez dire.
Ah, c'est ça, voilà.
Oui, mais c'est que voilà. Les auditeurs comprennent bien. Parce que...
Donc, Microsoft s'est fait épingler tout simplement parce que cette société a mis des pages de publicité dans le journal de campagne de l'UDC.
Diable.
Vous imaginez. Bien évidemment, il y a un journaliste qui a fait son travail et qui a essayé de remonter la piste pour savoir qui avait décidé cette page de publicité, d'autant plus que dans le journal de l'USC, de l'UDC, la page qui suit, c'est une photo qui montre une femme voilée musulmane avec la question « Aro », qui est une charmante ville suisse, ou « Ankara ». Et donc, on est allé interroger le directeur général de Microsoft Europe, qui a dit « Voyez la Suisse ». Nous, c'est trop loin, c'est pas nous. Et puis alors, on est allé interroger Peter Waser, qui est directeur général de Microsoft Suisse, qui a dit « Moi, pas savoir, c'est pas moi, c'est pas de ma faute ». Et donc, on est allé directement voir le service de presse de Microsoft, et on est tombé sur un porte-parole qui a dit « Mais bien sûr, je sais que nous mettons des pubs dans le journal de l'UDC ». Bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est assez simple, c'est que nous cherchons à toucher le public des décideurs qui s'engagent en politique, notamment les avocats et les patrons de PME. C'est sûr que probablement que ceux qui mettent dans la pub pour les journaux du Parti Socialiste s'adressent aux RMistes ou à ceux qui ne travaillent pas, et c'est pas la stratégie de Microsoft. Et d'ailleurs, Microsoft va plus loin, puisque de toute façon, c'est pas un acte politique, c'est un acte économique visant à toucher un large public. On sait prendre des risques chez Microsoft, c'est comme ça qu'on a grandi. D'ailleurs, nous n'avons reçu aucune réclamation. Alors, ça c'était le coup de cœur pour Microsoft, parce que c'est pas tous les jours qu'on félicite une multinationale américaine, et accessoirement, on espère que Microsoft aura le même courage en France quand un parti saura faire ce que l'UDC a fait.
Effectivement, à partir du moment où un parti commence à faire 29%, il va être difficile pour une multinationale de diaboliser son électorat. Xavier Van Lier, vous avez peut-être un petit commentaire, non, sur la Suisse, ou vous voulez qu'on passe à autre chose?
Non, c'était parfait. Moi, j'aurais le seul commentaire que j'aurais pu faire, c'est qu'on correspondait au coup de gueule, donc il était parfait, je ne rajoute pas.
Oui, surtout que dans cette histoire, Marine Le Pen s'est fait un peu piéger par les journalistes qu'on lui a demandé son avis, et elle aurait pu simplement répondre que le mouton noir ne veut pas simplement dire la couleur de peau dans les
expressions. On lui a posé une question, elle a donné sa réponse, elle ne s'est pas fait piéger. Termes-là. Lorsque les journalistes interrogent Marine Le Pen, il ne s'agit pas toujours d'un complot, on ne lui tend pas toujours des pièges, fût-elle du Front National. En l'occurrence, on l'a laissé s'exprimer, elle a tenu un discours qui correspond à la ligne qu'elle avait définie pendant la campagne présidentielle de son papa. Et dont on a vu les résultats calamiteux, absolument pas comparables, comme l'a dit Philippe Christel, à ceux de Christophe Blocher.
Je ne crois
absolument pas à la thèse de Marine Le Pen piégée parce qu'elle leur expliquait que son parti était normalisé.
Piégée, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée devant une question où elle a été quasiment
incapable de répondre. Ah oui, lorsqu'on pose une question à un dirigeant du Front National et qu'elle est incapable de répondre, il ne s'agit pas d'être piégée. Ça correspond simplement à son incompétence.
Oui, mais je crois que c'est une question de compétence, soit c'est une question de positionnement.
Je crois que le journaliste lui a posé la question dans ce terme-là.
C'est son positionnement qui est incompétent.
On est d'accord. On va passer de la Suisse peut-être à la Pologne.
La Pologne qui est le deuxième grand pays, enfin, ou plutôt on va pas dire que la Suisse est un grand pays d'Europe avec tout le respect qu'on a pour la pertinence du choix de nos électeurs.
C'est un grand pays
helvétique. La Pologne, c'est 40 millions d'habitants. C'est un pays qui a vocation à jouer dans la cour des grands de l'Union européenne. Et on l'a vu avec l'obstruction que les frères Kaczynski ont mis notamment dans les différents débats de l'Union européenne sur la constitution, le mini-traité ou quoi que ce soit. Mais à l'ère des frères Kaczynski est désormais close, puisque sur des élections législatives anticipées, convoquées d'ailleurs par Lady Kaczynski,
par eux-mêmes, ouais.
La dissolution à la Kaczynski a produit les mêmes résultats qu'un illustre prédécesseur que nous connaissons bien, puisque cette coalition a été sévèrement corrigée par les électeurs polonais. Alors là-dessus aussi, je crois qu'il y a deux éléments d'analyse à faire. Peut-être trois éléments d'analyse à faire. Premièrement, c'est que le spectre électoral polonais est quand même très clairement ancré à droite. Et le reste, c'est-à-dire que, bien évidemment, on regrettera probablement que des pays dont nous avions salué un certain nombre de positions, je pense notamment à la fameuse Ligue d'autodéfense de la République, Samobrona, je ne sais pas comment on dit en polonais, donc les polonophones m'excuseront, et la Ligue
des familles... On appelle le Parti populiste autodéfense en France,
voilà, un peu comme ça. Absolument. Et également la Ligue des familles, ces deux partis n'ont pas atteint la barre symbolique des 5,5%, loin s'en faut, et donc ne sont plus représentés au Parlement. L'essentiel, le reste du spectre politique est quand même bien à droite, puisque si les Kaczynski ont perdu, c'est quand même un autre parti de droite, même s'il est de droite plutôt libérale, qui l'a emporté, avec le candidat Donald Tusk, qui avait été il y a deux ans le concurrent du président Kaczynski à l'élection présidentielle. Deux choses à retenir du programme de Donald Tusk et des libéraux. Premièrement, c'est que cette plateforme civique, c'est le nom de cette coalition, veut faire de l'euro sa priorité économique et s'est fixé pour objectif d'introduire la monnaie unique en Pologne en 2012. On imagine largement les conséquences sur l'économie européenne et y compris sur la France de l'entrée de la Pologne en 2012. Ça sera passionnant. Le deuxième sujet, peut-être plus géopolitique, c'est que s'il est un point sur lequel la droite de Tusk s'oppose à la droite des Kaczynski, c'est sur la politique de la barricade permanente des frères Kaczynski. À l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays. À l'extérieur du pays, c'est d'ailleurs essentiellement la guérilla dans les relations étrangères avec l'Allemagne et la Russie, et la plateforme civique de Donald Tusk se réjouissent de ce retour à la normale qui permettra à la Pologne de rétablir des relations civilisées et des relations correctes avec l'Allemagne et la Russie, ce dont nous ne nous plaindrons pas. Je pense également que on aurait tort, comme le font certains médias de gauche aujourd'hui français, de dire que la défaite des Kaczynski est une défaite sur leur position d'ordre moral, pour reprendre le vocabulaire de la presse française de gauche. Je crois que c'est plutôt sur la volonté des Kaczynski de régler des comptes 10 ans, 15 ans en arrière sur ce qu'ont fait ou ce que n'ont pas fait les collaborateurs du régime communiste. Je pense que c'est plus sur une incapacité à gérer la situation économique en Pologne, et sur une stratégie de la tension permanente soit en semi-guerre civile interne, soit avec les voisins allemands, russes et même les partenaires de l'Union européenne. C'est plus là-dessus que les Kaczynski ont été sanctionnés et non pas sur leur politique de retour à un certain ordre moral, comme disent les pamphlétaires de Libération.
Surtout que sur le plan économique, la Pologne a une tendance à progresser. Elle a une bonne économie avec une bonne progression. Et effectivement, comme vous disiez, c'est peut-être l'un des seuls pays pour l'instant dans l'Europe de l'Est qui est capable de rentrer dans l'euro. Effectivement, ça risque d'être une catastrophe, mais c'est les seuls qui ont pour l'instant les indices économiques qui vont avec. Ils ont quand même un énorme problème d'émigration et d'immigration. Est-ce que cela a joué? Parce qu'effectivement, on voit les Polonais partir et on voit aussi que la Pologne a besoin de main-d'œuvre dans son propre pays.
Alors, ce qui est amusant, Patrick Pell, vous faites référence au débat électoral qui a opposé Jaroslav Kaczynski, le Premier ministre sortant, et Donald Tusk. Il y a eu notamment une interpellation de Tusk qui a crucifié le brave Kaczynski en lui disant « Depuis que vous gouvernez, près de 2 millions de Polonais ont choisi le libéralisme économique. » Silence. Et au-delà, malheureusement pas chez nous, mais en Irlande, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, en Hollande ou en Espagne. Alors deux commentaires. Un, c'est vrai, et c'est vrai que du coup la situation polonaise fait que il y a une émigration de travail dans d'autres pays. Pour le clin d'œil, on notera que c'est bizarre, mais on n'a pas cité la France. Et donc, qui est pourtant, comme on le sait, la destination favorite des plombiers polonais de tout poil. Mais il semble que l'émigration économique polonaise ne se précipite pas pour aller prospérer dans l'Eldorado français. Peut-être que visiblement, il y a des choses dans cet Eldorado qu'ils ne veulent pas retrouver. Et c'est pour ça qu'ils vont en Écosse.
Ou c'est parce qu'ils viennent pour travailler.
Xavier Van Lier.
Voilà.
Xavier Van Lier, un commentaire sur les élections polonaises?
C'est ce que je voulais souligner. Il y a des pays qui accueillent l'immigration, qui recherchent de l'assistanat, et pour cela la France est parfaitement bien positionnée. Et puis d'autres qui donnent leur chance à des gens qui veulent travailler. Et puis c'est l'ensemble des pays cités par Monsieur Tusk.
On va terminer ce tour de table sur les élections. Je crois qu'il y a eu aussi d'autres élections, mon cher Philippe.
Oui, alors c'est passé un petit peu plus inaperçu et objectivement on le comprend parce que le sujet n'est pas majeur.
Je vous avoue, vous n'en aviez pas parlé avant l'émission.
Mais nous qui sommes les observateurs attentifs de la vieille Europe et de toutes ces patries charnelles, nous sommes bien obligés de mentionner à nos auditeurs. ce sigle électoral me trouble.
Il faut dépouiller vieille Europe.
Oui, vite fait, oui, comme vous dites, Olivier. Le premier tour de l'élection présidentielle slovène. Alors, je ne ferai pas l'injure à mes co-animateurs de leur demander de me citer les deux candidats en liste. Mais sachez que Alojz Peterle et Danilo Turk vont s'affronter lors du deuxième tour. Non, simplement, pourquoi je voulais citer ça? C'est parce que, là aussi, on ne l'a pas dit, mais en quatrième position, avec 19,31% des suffrages, c'est le candidat de la formation d'extrême droite, dit Le Monde. Donc je pense que c'est un garçon sympathique.
Oui, c'est comme les traditionnalistes.
Le candidat du Parti National, le SNS, qui s'appelle Zmago Jelinčić. Voilà, Zmago Jelinčić, c'est un bon mot pour le Scrabble. En tout cas, il a fait 19,31% des suffrages, sachant que le deuxième tour se jouait à 24,6% des voix. Et donc, félicitations et encouragement à Zmago Jelinčić dans cette Slovénie, qui est quand même la Suisse de l'ancienne Yougoslavie. Et donc, on peut très bien imaginer qu'il y a un effet blochérien dans ce résultat Jelinčićien.
Je vous disais que ma connaissance de la Slovénie s'arrêtait à un groupe qui s'appelait Laibar, mais voilà. Mais en tout cas, c'est une information importante. Alors, mon cher Philippe, on va pas pouvoir terminer cette première demi-heure sans parler de la Russie. Je pense que vous avez quand même quelques informations à nous dire. Ou alors peut-être Xavier Van Lier.
Non, moi, en l'occurrence, je ne voulais pas parler de la Russie, mais si...
Je crois que Philippe avait énormément envie d'en parler.
Oui, parce que comme j'en parle pas souvent, là au moins, il y a une fête de...
Alors, je vous avais proposé, avant l'émission, de parler de Poutine et de Sarkozy. La rencontre de Poutine et Sarkozy, vous m'avez dit que ça n'avait...
Non, j'ai quand même essayé de cibler sur les... Enfin, de me concentrer sur les sujets intéressants importants et significatifs qui pèsent sur le destin du monde. Et à cet égard, je crois qu'on... on aura observé la dimension un petit peu pitoyable quand même de la rencontre, puisque vous voulez que j'en parle, je vais en dire quelques mots.
Sarkozy.
Et je crois que la visite de Nicolas Sarkozy à Moscou a été un échec complet. Y compris dans les derniers moments de la conférence de presse finale où Nicolas Sarkozy a cru attirer Vladimir Poutine sur la question des convergences sur l'observation du programme nucléaire iranien. Et je crois que Nicolas Sarkozy s'est déplacé à Moscou et il est rentré bredouille.
C'est intéressant parce que la presse française a parlé d'un timide rapprochement de Nicolas Sarkozy et de Vladimir Poutine. Sarkozy, lui, a été beaucoup plus optimiste. Il a eu une impression d'un très grand rapprochement et d'un franc-parler, surtout sur le dossier iranien. Ce qui prouve quand même un peu le décalage des analystes et de ce que pense notre cher président.
Il faut quand même essayer d'être un petit peu objectif sur le sujet. Il y a un point qui me paraît positif dans le discours sarkozyste qui pourtant nous a habitués à une certaine intransigeance et à une certaine transparence dans sa volonté d'être totalement aligné sur les positions de Washington. Et il y a au moins une certaine continuité, évidemment avec beaucoup moins de densité qu'à la période Chirac, mais il y a au moins un effort ou une volonté ou une nécessité d'équilibre entre la politique étrangère passée et la politique étrangère présente, peut-être pour mieux assurer une transition, que sais-je, dans le vocabulaire qui est que, à plusieurs reprises, Nicolas Sarkozy l'avait dit à la sortie de sa rencontre avec Vladimir Poutine au G8 en Allemagne, et il l'a redit à cette occasion, il a dit publiquement qu'il était quand même conscient qu'il fallait se mettre à la place de la Russie et de comprendre que la Russie a vécu des périodes particulièrement troublées et qu'elle était dans une nécessaire reconstruction et que c'était un point de reconstruction, retour à la puissance et que c'était un point de vue russe qu'il fallait intégrer. Pas pour s'en féliciter de son point de vue, pas pour s'en contenter, mais au moins ces choses-là ont été dites, et même dans la construction du voyage présidentiel de Nicolas Sarkozy en Russie, avec notamment les discours qu'il a tenus le lendemain à l'université scientifique de Moscou devant les étudiants, en les exhortant à la démocratie, en tenant un discours sur le thème « Moi, je connais la démocratie dans mon pays, je connais une justice indépendante du politique ». Bon, ça fait quand même sourire, pour ne pas dire plus. Enfin,
c'est vrai.
Et cette escapade a été organisée et autorisée, et on peut quand même se féliciter que Nicolas Sarkozy ait choisi une étape plus ou moins organisée pour délivrer ce type de message, plutôt que les relations à la hussarde.
Attendez, je crois qu'Olivier Lebrun,
les autres décideurs occidentaux,
a envie d'intervenir à ce moment-là. Bah,
sur ce point précis, non, simplement pour préciser quelque chose, il n'est pas tellement, si vous voulez, étonnant que Nicolas Sarkozy soit revenu au principe de réalité. Quel est le personnage qu'on avait le plus entendu sur la politique à adopter vis-à-vis de la Russie pendant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy? C'était André Glucksmann. André Glucksmann, avec son obsession sur la Tchétchénie, André Glucksmann avec sa détestation pathologique de tout ce que représente Poutine, André Glucksmann avec sa vision totalement néo-conservatrice des relations internationales et en particulier de l'attitude à avoir de la part de la France et de l'univers envers la Russie, André Glucksmann, on ne l'entend plus. Entre-temps, Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, a découvert le poids de la fonction et surtout le poids de la politique traditionnelle de la France, est repassé par le Quai d'Orsay, est repassé par la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la Défense, et s'est rendu compte que la Russie, était incontournable, a regardé un peu les tableaux de bord de l'économie mondiale et a jeté un coup d'œil sur le prix des matières premières et en particulier du pétrole et du gaz, et Nicolas Sarkozy essaye tant bien que mal d'habiter sa fonction. Alors ce retour à la réalité, ce retour, disons plutôt au pragmatisme vis-à-vis de la Russie, c'est simplement une sortie de l'élection présidentielle et un éloignement des positions glucksmanniennes. On espère que ce sera pour longtemps.
D'accord avec vous, Olivier. Je remarque que quand on lâche Bernard Kouchner sur le sujet de l'Iran, on a des déconnexions complètes avec la position française traditionnelle, le principe de réalité. Je me félicite, en ce qui me concerne, que les dérapages soient réservés dans la relation avec les... Enfin, je me félicite que là où il n'y a pas de dérapage et où c'est au moins c'est contrôlé, c'est sur la relation avec la Russie. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
Mais la politique internationale, a priori, de ce qu'on peut voir du parcours du personnage, n'intéresse pas Nicolas Sarkozy. Ça l'intéresse sur le moment, c'est-à-dire à horizon temporel d'une semaine. Pour faire le lien, et le lien est énorme, est fort, et on le sait, entre la politique iranienne, la politique russe, la politique vis-à-vis des États-Unis que peut avoir la France, il faudrait pour cela avoir une certaine culture stratégique, avoir une vision du temps long que n'a pas Nicolas Sarkozy. C'est un homme politique, une bête politique, sans doute le plus doué des 10 dernières années, mais c'est quelqu'un qui n'a pas cette vision-là. Il l'apprend, il tâtonne, il perçoit aujourd'hui. On espère qu'il va atterrir rapidement.
Alors, sur la Russie, Patrick PL et vous autres, chers auditeurs, et autour de la table, j'ai quand même des bonnes nouvelles à vous annoncer. Parce que très souvent, et c'est vrai que cette émission des Chroniques de la Vieille Europe est plutôt favorable à la Russie et à son bien-aimé président Vladimir Poutine. Et puis on a des messages d'auditeurs qui nous disent que tout ça c'est bien gentil, mais enfin, la Russie c'est une natalité en chute, c'est une mortalité en hausse, c'est un réservoir humain qui s'épuise. Eh bien, je peux vous annoncer que, chiffre jamais atteint depuis 15 ans, plus d'un million d'enfants sont nés en Russie entre janvier et août 2007 et que la natalité russe vient d'augmenter de 6% sur un an. Et non seulement cette natalité augmente, mais en plus, la mortalité au cours des mêmes 7 premiers mois de l'année s'est réduite de 6,5%. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, que quand on décide une véritable politique qui crée du différentiel de revenus pour les familles, ça fonctionne et il y a aucune raison que ce qui fonctionne sur les bords de la Moskva ne fonctionne pas sur les bords de la Seine ou ailleurs. Et deuxièmement, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ce grand réservoir humain qu'est la Russie et qui tendait à s'amenuiser a compris que il fallait inverser la tendance, et les premiers résultats sont tout à l'honneur des décisions courageuses qui ont été prises par les pouvoirs publics.
Xavier Vandier, pour conclure. Oui, ce que je voulais ajouter sur ce regard de natalité en Russie, c'est que je crois que c'est non seulement le fait d'une politique nataliste volontaire avec effectivement des moyens budgétaires et financiers qui sont mis sur la volonté de relancer cette natalité, mais que c'est aussi le fruit du retour à la stabilité politique et économique qui est celle de la Russie depuis les deux mandats de Vladimir Poutine. On sait que la natalité, la volonté de faire des enfants traduit aussi un retour de la confiance dans l'avenir. C'est-à-dire que quand on sait que le pays est dans un chaos, qu'on n'imagine pas l'avenir qu'on va léguer à ses enfants, on a tendance à faire moins d'enfants. Je pense que ce regain de natalité est donc le symptôme que les Russes reprennent confiance dans l'avenir, se projettent dans l'avenir. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont à leur tête quelqu'un qui a une stratégie pour le retour de son pays sur la scène internationale, mais de retour à la stabilité. Bref, les Russes reprennent confiance dans l'avenir, et ça, c'est une excellente nouvelle. Et généralement, ça a encore davantage d'effet sur la natalité que toutes les mesures qu'on peut prendre en termes de budgétaires ou financières.
Donc, merci à vous tous pour ce mini-tour d'horizon, ce mini-tour par rapport au mini-traité. Quand même, on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas besoin d'en parler. Ce mini-tour d'horizon de l'actualité européenne. Et nous allons passer à notre deuxième partie avec notre invité pour parler de la Turquie. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous voici donc de retour dans le Libre Journal de la Vieille Europe pour cette deuxième partie avec notre invité, Tancrède Josserand. Tancrède Josserand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur et historien et vous êtes un spécialiste de la Turquie et vous êtes aussi responsable de l'Observatoire du monde turc et des relations euro-turques de la lettre Sentinelle. Les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent bien car vous êtes déjà venu dans notre émission et si j'ai bonne mémoire, vous êtes aussi passé dans l'émission de Henri de Esquin.
Parfaitement.
Donc merci à vous de revenir dans notre Libre Journal de la Vieille Europe car l'actualité turque est plutôt riche en événements. Alors d'une part, les électeurs turcs ont largement approuvé dimanche par référendum le principe de l'élection au suffrage direct de leur président. Et d'autre part, nous parlerons aussi de l'affrontement sur la frontière irakienne. Alors ce référendum, Erdogan a salué le résultat comme une victoire pour la démocratie. Je vais le citer. Notre peuple a apporté aujourd'hui, par le verdict des urnes, une solution aux problèmes qui ont engendré des crises et des tensions dans le passé. Ce référendum peut être considéré comme une contribution historique à la lutte de la Turquie pour la stabilité. Alors, ce référendum est-il un signe vers l'Europe, une sorte de gadget démocratique, où il y a un réel changement dans le pouvoir en Turquie ?
Oui, effectivement, il y a un réel changement dans le pouvoir en Turquie, puisque ce référendum entérine la fin du système hiérarchique de l'État turc, et donc la réislamisation de la Turquie. Puisqu'en fait, ce référendum fait suite à des décisions qui avaient été prises au mois de juin de faire une réforme constitutionnelle pour débloquer la crise entre le Parlement et l'armée au sujet de la désignation du président de la République. Alors qu'avant, jusqu'à maintenant, le président de la République était désigné par l'Assemblée nationale, il a été décidé, avec ce référendum, qu'il serait désigné au suffrage universel. Donc une victoire assez écrasante, 72% de la population s'est exprimée en faveur de cette réforme. Et donc,
on a dit qu'il y avait quand même peu de votants. 67% du corps électoral a voté, et on considère qu'en Turquie, c'est quand même...
Oui, c'est puisque le vote est obligatoire en Turquie. Bon, donc effectivement, c'est fait, mais en même temps, on a vécu une super année électorale en Turquie, donc avec des élections comme on l'a vu au mois de juillet. Donc il y a peut-être une lassitude de la part de l'électorat, et surtout, bon, on pensait que les jeux étaient déjà faits. Bon, 72%, c'est quoi ? C'est la droite turque, en fait, puisque du centre droit à l'extrême droite, la droite turque, c'est 70% de la population. Le reste, les 30% qui restent, c'est la gauche, ce sont les républicains kémalistes, et auxquels on peut rajouter dans une certaine mesure les Kurdes.
Le parallèle qui a été établi, c'est qu'il s'agissait d'une réforme démocratique. Dans votre première intervention, vous avez établi un autre parallèle, c'est-à-dire cette élection au suffrage universel du président de la République, du chef de l'État, vous l'avez assimilé au processus de réislamisation. Pour quelle raison ?
Oui, parfaitement, puisque en fait, quand on voit le profil du nouveau président de la République turque, donc qui a été élu au mois d'août, Abdullah Gül, c'est un profil totalement en rupture avec les anciennes élites kémalistes. Abdullah Gül, il faut savoir qu'il a fait donc des études de commerce, qu'il a fait en même temps qu'il a été responsable d'une banque saoudienne, Al Baraka Finance, qu'il a longtemps travaillé donc en Arabie Saoudite et qu'il est passé par des écoles d'imam Hatip. Donc il a eu en même temps une éducation à caractère religieuse, mais aussi dans le domaine commercial. Ce qui est totalement rupture avec les anciennes élites kémalistes qui étaient des bureaucrates et des militaires. Donc on assiste effectivement avec ce nouveau président à la substitution d'une élite par une autre. Bon, quand on voit l'ancien président qui était Ahmed Césaire, c'était un juriste qui était né dans les Stambouliotes, d'une bonne famille kémaliste, donc quelqu'un de totalement différent. D'autre part, quand on regarde le profil idéologique d'Abdullah Gül, ça c'est quelque chose qu'on sait peu, c'est quelqu'un qui a été formé par certaines confréries soufis, notamment la confrérie des Naqshbendis, et qui a eu comme un de ses maîtres spirituels, Necil Fazıl Kösakürak, qui était l'un des animateurs du mouvement qu'on appelle en Turquie Büyük Doğu, c'est-à-dire Grand Orient. Alors, je vous rassure, rien à voir avec le Grand Orient à nous.
Mais on n'est pas rassuré pour autant.
On n'est pas rassuré pour autant.
Non, 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 vous avez raison, puisque Büyük Doğu, c'était le premier mouvement islamiste et une revue islamiste des années 50 qui a beaucoup fait pour réarmer intellectuellement la mouvance islamiste. Et Kösakürak est l'équivalent de Saïd Kopt. Alors Saïd Kopt, c'est un Égyptien qui, pareillement dans les années 50-60, a théorisé dans le monde islamique l'apostasie des régimes des États musulmans, même s'ils sont dirigés par des musulmans. Donc la légitimité de la lutte armée contre des États même dirigés par des musulmans.
Donc c'est une sorte de takia à la turque.
Oui, de takia, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Donc il faut donc... Abdullah Gül n'est pas du tout le modéré dont une certaine presse occidentale essaye de nous brosser le portrait. Non, absolument pas.
Vous avez parlé de mutation des élites. On a un petit peu l'impression, en vous entendant, je suis navré de revenir à ce type de distinction, mais elles sont à la fois éclairantes, néanmoins éclairantes pour un public français, qui a une sorte de pays légal laïque qui organise une résistance qui est en train de céder, et qu'il y a un pays réel qui monte et qui, lui, est islamique. Est-ce que ça correspond à la,
oui, parfaitement, totalement,
à la situation turque ?
Puisque la démocratie en Turquie est quelque chose d'assez artificiel. La démocratie, si on reprend le terme kémaliste, c'est la démocratie pour le peuple, mais malgré le peuple. Parce que lorsqu'on regarde les résultats électoraux, en réalité, la gauche kémaliste ou les kémalistes, structurellement, ont toujours été minoritaires. Ils ont toujours tourné entre 20 à 30% des voix au maximum. Et le reste, en fait, c'était généralement des partis de centre-droit à partir des années 50, à partir du multipartisme en 1950, qui ont capté un électorat conservateur et musulman. Et avec, à partir des années 90, l'effondrement de ces partis de centre-droit qui avaient su instrumentaliser l'islam sans remettre en cause la laïcité, on a eu l'émergence de ce néo-islamisme, de cet islamisme de ces musulmans démocrates, on va dire, qui ont su reconstruire le spectre politique turc en rassemblant au sein du Parti de la Justice et du Développement à la fois le centre-droit et l'extrême droite religieuse. Donc un spectre électoral qui va jusqu'à 50% des voix, comme on l'a vu aux dernières élections.
Dans ce bouleversement du paysage politique turc, quel rôle a joué l'Union européenne ? Parce qu'il semblerait, en lisant les articles que vous publiez dans Lettres Sentinelles, que le verrou a pu sauter justement du fait des exigences démocratiques posées par l'Union européenne pour l'adhésion future de la Turquie à l'Union.
Parfaitement, puisqu'il y a une alliance objective qui existe aujourd'hui entre les islamistes et l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que pour les islamistes, plus d'Europe égale plus de démocratie, et plus de démocratie égale plus d'islam.
Et moins d'armées.
Donc moins de laïcité.
Quelle est la conception turque de la laïcité ? Parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire que la Turquie est laïque, l'Union européenne est laïque, la France est laïque.
Différent de la France.
Qu'il faudra peut-être
Définir,
clarifier tout ça.
La laïcité turque n'a rien à voir avec la laïcité française, puisque l'islam en Turquie, puisque le culte musulman en Turquie est subventionné, et le culte de musulman de rite sunnite hanafite est le seul reconnu. C'est-à-dire que même si vous êtes alévi, donc les alévis c'est une branche orthodoxe hétérodoxe de l'islam, ce n'est pas reconnu. Donc, un exemple très, très concret, le vendredi, les prêches à la mosquée sont commandités par le ministère des Affaires religieuses de Dinayet. Et les imams sont payés par l'État. Donc ça n'a rien à voir avec notre laïcité. Pourquoi l'islam est encaserné comme ça en Turquie ? Tout simplement parce que l'État turc a eu longtemps eu peur qu'un islam qui se développe en dehors d'une structure étatique soit trop libre et se mette à menacer la liberté des non-croyants.
Le monde turc aujourd'hui, le monde turc, c'est pas seulement la Turquie qu'on connaît, avec sa population importante et en progression, en passe de rattraper celle de l'Allemagne numériquement dès demain, mais c'est aussi tout un arrière-monde turc en Asie centrale, c'est 100 millions de personnes. On a eu dans l'histoire turque le développement de thèses pan-turquistes pour un rattachement de ces populations à la Turquie, ou en tout cas une plus grande solidarité avec ces peuples. Que pensent les nouvelles élites, justement, réislamisées, néo-islamistes de Turquie, sur justement tout cet arrière-monde turc? Est-ce que c'est un argument électoral? Est-ce qu'il y a le développement d'une politique vis-à-vis de ses frères éloignés?
Oui, alors il y a une politique, certainement, mais c'est quelque chose qui a été très à la mode en Turquie au début des années 90, après que la première proposition de candidature de la Turquie ait été rejetée. Donc, en 1992, avec des chefs d'État comme Turgut Özal. Bon, la Turquie s'était davantage tournée vers l'Asie centrale, hein, après ces différentes rebuffades. Mais en fait, ils se sont heurtés aux Russes, aux Américains, aux Chinois aussi. Et ça n'a pas vraiment concrétisé, sauf comme un pays pour l'Azerbaïdjan, où effectivement, pour l'Azerbaïdjan, il y a une très forte coopération, y compris sur un plan militaire, notamment puisque c'est l'armée turque qui forme les troupes azéries. On l'a vu pendant le conflit au Nagorno-Karabakh. Mais aujourd'hui, les élites turques, même islamistes, sont beaucoup plus intéressées par l'Europe parce que l'Europe est un véritable aimant économique. Si vous allez à Istanbul aujourd'hui, bon, quel est l'aimant ? C'est l'Europe, ça se voit. Toute la façade occidentale de la Turquie est attirée. Bon, et ce sont des entreprises françaises qui investissent en Turquie. Bon, alors il y a des investissements turcs en Asie centrale, mais beaucoup plus faibles. Bon, alors, et surtout, c'est un des investissements qui se développe par le biais de certains réseaux confrériques, notamment la confrérie des Nourdjou, avec Fethullah Gulen, qui a beaucoup investi, notamment des écoles d'imams dans ces pays-là.
Alors, pour poursuivre sur le monde turcophone et peut-être en transition avec l'autre sujet de la Turquie qui est son raidissement dans sa position d'allié traditionnel des États-Unis. On vient de voir notamment la semaine dernière qu'au sommet de la Caspienne, deux pays turcophones, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, ont rejoint la Russie, le Kazakhstan et l'Iran, donc sur une position de soutien à Téhéran. Est-ce que c'est en lien avec une volonté très claire de la Russie de décorréler de la Turquie pardon de décorréler son soutien aux États-Unis en Irak? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous parliez de la coopération forte entre Turquie et Azerbaïdjan, on a toujours un peu du mal à imaginer quelle est la réelle indépendance de pays comme l'Azerbaïdjan ou le Turkménistan notamment. Est-ce que ça procède de la même intention?
Non, enfin, je crois pas. Il faut pas exagérer trop l'importance du poids de la Turquie en Asie centrale ou même dans le Caucase, puisque la Turquie, la Russie, la Fédération de Russie a plus de poids, à mon avis, en Azerbaïdjan. On l'a vu avec le président Aliyev, qui était quand même un ancien colonel du KGB, et même les Russes, pendant le conflit au Karabakh, jouaient un jeu de bascule entre les Arméniens et les Azéris, et dans tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc je le pense pas. Et quant aux relations avec les Américains, il n'y a pas de répercussion dans le Caucase.
Donc on va peut-être passer au... Xavier Van Lier, juste pour conclure sur ces...
Oui, moi ce qui me fascine dans ces mutations des élites turques, c'est le double aspect, où on a à la fois des gens qui sont réislamisation, qui sont des croyants extrêmement conséquents, intégraux, et qui dans le même temps misent sur l'économie mondialisée, sur le commerce, qui sont intégrés dans le système financier international, qui ont les yeux tournés vers l'Europe et vers le marché commun européen. Tout ça me fait penser à une sorte de révolution conservatrice, voire une sorte de néo-conservateur turc. Est-ce que je me trompe ou...
Non, parfaitement, c'est une révolution conservatrice. Alors qu'est-ce qu'on peut entendre par révolution conservatrice? C'est-à-dire un ordre immuable allié à une dynamique irrésistible. Et c'est exactement ça ce qui se passe en Turquie. Bon, et on le voit notamment avec la mise en place d'un patronat musulman, le Musyad, qui a donc ses propres réseaux, mais aussi par des réseaux d'intellectuels. Bon, je pense au quotidien Zaman, qui a su même propulser en avant des gens comme Ali Bulac ou d'autres, aussi des écoles d'imams ou des écoles techniques qui maintenant forment des jeunes musulmans aux techniques de l'Occident. Bref, une véritable réponse à la modernité, mais aussi à la mondialisation, une mondialisation qui se veut verte. Pourquoi? Parce que pour les islamistes, il faut se débarrasser, il faut se libérer du carcan de l'État-nation kémaliste, un État-nation qui porte en germe le sécularisme, et pour cela, la mondialisation est une aubaine, et l'Union européenne aussi.
Donc, on a des sentiments un petit peu mitigés, hein. Je suis navré, j'insiste un petit peu, mais ouais, un petit peu mitigé face à cette révolution turque. D'une part, on est saisi d'effroi, parce que bien entendu, on est très inquiet à la perspective de voir tous ces gens peser de tout leur poids au sein des institutions européennes, d'autant qu'il reste quand même, effectivement, vous l'avez dit, une option mondialiste et des liens avec les États-Unis. Mais en même temps, est-ce que les méthodes utilisées par les islamistes turcs, confrontés à un État extrêmement dur qui les réprime, les méthodes utilisées pour faire cette révolution morale, culturelle et spirituelle et prendre le pouvoir, ne devraient pas inspirer quelque peu ceux qui aspirent à un ordre différent dans nos propres pays d'Europe occidentale?
Tancred Josserand, votre réponse?
Oui, effectivement, ça devrait nous inspirer, nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas condamner en bloc... Enfin, la Turquie, bon, est-ce qu'on peut, au nom de valeurs morales et traditionnelles, condamner une révolution conservatrice, bon, qui se veut morale? Je sais pas. C'est, bon, pourquoi critiquer la tradition chez les autres quand on veut la défendre chez nous? Bon, mais c'est, je pense que les Turcs sont, que le visage turc est assez, que la Turquie c'est deux choses. C'est d'un côté des nationalistes laïcs, promothéens, on va dire, puisqu'ils sont dans l'héritage d'Atatürk, qui veulent construire un homme nouveau, débarrasser des scories cosmopolites de l'Empire ottoman. Donc ça peut que nous plaire. Et de l'autre côté, des conservateurs traditionnalistes, partisans d'un ordre moral. Bon, là aussi, ça nous plaît.
Oui, c'est un spectre politique intéressant. Dans ce spectre,
la révolution et la tradition.
Ça nous plaît chez les Turcs.
Il y a un dernier élément. Vous avez écrit un article dans la Lettre Sentinelle sur les contradictions de la gauche kémaliste qui devient post-nationale. Là aussi, ça nous interpelle.
Oui, alors la post-nationale, oui et non. C'est-à-dire que la gauche turque, au contraire, est devenue de plus en plus nationaliste. La gauche électorale, c'est-à-dire le Parti républicain du peuple, qui était le parti d'Atatürk. Donc je lis une citation de Deniz Baykal, qui est le président du Parti républicain du peuple, qui dit « Le nationalisme est le ciment de la société turque. Il en constitue la valeur fondamentale qui fait de nous ce que nous sommes. » Bon, ce n'est pas dans la bouche d'un François Hollande qu'on peut entendre ça.
Je crois qu'on va arrêter peut-être sur ce sujet, juste pour avoir quelques messages d'auditeurs. Premièrement, des messages qui sont ravis d'entendre les jeunes. J'aime beaucoup le mot jeune, quand même. Aussi pugnace de la pensée politique et si vive. J'admire la vigueur du peuple russe et je pense que nous aurions bien besoin d'un Poutine en France. Deuxième message sur Monsieur Sarkozy, mais est-ce qu'il faut en parler? Mais enfin, on laisse la parole aux auditeurs qui, durant la campagne présidentielle, Sarkozy a précisé que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe. Je suis déçu de sa position de recul. La Turquie n'a rien en commun avec l'Europe. Pour l'instant, je ne sais pas si Monsieur Sarkozy a tellement reculé. On va voir avec le temps.
En tout cas, Nicolas Sarkozy n'a pas fini de décevoir ses électeurs.
Il n'a pas avancé.
On vous rassure.
On peut peut-être poser la question à Tocra Josserand. Comment analyse-t-il la position de Nicolas Sarkozy sur la Turquie?
Je pense qu'elle est plus que prudente.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup joué là-dedans, selon certaines sources, c'est Lévite, dans la réorientation de la position de Nicolas Sarkozy.
Donc Jean-David Lévite, qui est le Sherpa de Nicolas Sarkozy pour les questions diplomatiques.
L'ancien ambassadeur de France à Washington, ce qui est quand même significatif.
L'éminence grise, le père Joseph de Tremblay, on pourrait dire aussi, pour faire une métaphore historique.
Oui, alors exclusivement historique. Hein.
On va peut-être passer à notre deuxième sujet, Tangrad Josserand. C'est effectivement beaucoup ont considéré que peut-être que cette élection a un peu passé inaperçue due à cette question que beaucoup se posent. Est-ce que la Turquie est-elle en guerre? Donc pour nos auditeurs et les auditeurs de Radio Courtoisie et pour nous-mêmes, il serait intéressant que vous nous résumiez ce début de conflit ou plutôt ce début d'accrochage. Est-ce que la Turquie a décidé de rentrer dans la guerre? Sur la frontière irakienne, je pense qu'on n'a pas grand-chose en ce moment dans la presse française pour nous dire l'état de ce conflit.
L'état de la situation, plutôt les causes, les raisons. Moi, j'en vois grosso modo 5. Tout d'abord, depuis quelques années, ce sont les attaques récurrentes du PKK contre les fonctionnaires de l'État turc, contre l'armée turque à l'est de la Turquie, dans la région du Hakkari. Donc, il y a un sentiment d'exaspération devant cette impunité. Ensuite, c'est aussi dans une certaine mesure un geste de défiance vis-à-vis des Américains, du fait qu'à l'heure actuelle, il y a une motion qui passe à la Chambre, au Congrès américain pour reconnaître le génocide arménien. Donc on fait une représailles vis-à-vis des Américains en Irak. Troisième point, c'est l'armée qui joue sa carte, puisque l'armée, après sa défaite, il faut le dire cette année, face aux islamistes, joue en fait sur ce qu'on peut appeler une stratégie de la tension. C'est-à-dire, comme on ne peut pas avoir une tension intérieure, faire monter la tension à l'extérieur pour amener une situation qui puisse peut-être amener à déclarer l'état d'urgence face au gouvernement islamiste. Et donc, pousser les islamistes dans leur retranchement. Quatrièmement, c'est aussi, à mon avis, ça c'est actuellement la raison principale, c'est la question de... Il faut savoir que la semaine prochaine sera décidée du statut de la ville de Kirkuk, au nord, dans le Kurdistan irakien. Cette ville de Kirkuk a pour caractéristique de receler des gisements pétroliers. Si jamais la ville de Kirkuk est rattachée au Kurdistan irakien, eh bien on pourra parfaitement envisager la création d'un État kurde indépendant qui aura les moyens, le potentiel de se développer économiquement. Et ça, le gouvernement turc n'en veut, l'État turc n'en veut en aucune façon, puisque ça créerait un formidable précédent et que ce serait un formidable aimant pour les 12 millions, 15 millions de Turcs de l'Est de la Turquie, et que ça déstabiliserait complètement la région.
On a bien vu, parce que pour une fois on va prendre un peu défendre un peu les Turcs sur ce conflit, parce que les Turcs depuis longtemps demandent une intervention des Américains, des Irakiens pour arrêter les principaux chefs de guerre. Et il y a une sorte de
non-réponse
de la part de la diplomatie américaine.
Les Américains sont très gênés, ils ne peuvent pas intervenir puisque les Kurdes sont leurs principaux alliés en Irak, ce sont leurs seuls alliés fiables.
Et c'est la seule zone aujourd'hui à peu près tranquille en Irak, pacifiée. C'est là que les chrétiens irakiens sont réfugiés. C'est la seule zone qui commence à avoir une petite reprise économique. Et effectivement, on saisit bien le problème américain.
Le problème pour les Américains. D'autre part, les Américains voudraient instrumentaliser les Kurdes contre les Iraniens. Et il y a certains faits qui nous sont parvenus avec le transfert par l'armée américaine d'armes américaines aux rebelles du PKK. On a retrouvé, l'armée turque a retrouvé des rebelles du PKK en possession d'armes américaines. Et d'autre part, il y aurait aussi le jeu assez obscur du BND qui manipulerait certains groupes.
Le BND, vous pouvez éclairer le...
Donc les services secrets allemands.
Bundesnachrichtendienst.
Donc il y a certains journalistes turcs qui vont jusqu'à dire que les Américains, bon, c'est vrai, veulent un Kurdistan indépendant, mais qui seraient prêts à découper la Turquie.
Parfait.
À ce niveau-là, est-ce que c'est une thèse complètement...
Alors écoutez, j'ai devant moi la carte de Ralph Peter qui a été publiée dans le mensuel de l'armée américaine au mois de juin 2006. Cette carte prévoit le redécoupage du Moyen-Orient. Donc une nouvelle carte d'un nouveau Moyen-Orient. Sur cette carte figure un grand Kurdistan incluant tout l'est de la Turquie, l'ouest de l'Iran.
Et le nord de la Syrie.
Et... Cette carte a été exposée lors d'une réunion du traité de l'Atlantique Nord en septembre 2006 à Rome. Et il y a eu une protestation de l'état-major turc. Donc ces craintes ne sont pas totalement sans fondement.
Face à tous ces événements, quelle perspective feriez-vous sur les relations entre les États-Unis et la Turquie ? S'agit-il encore d'alliés sûrs, de gens qui marchent la main dans la main, qui ont des objectifs stratégiques au moins régionaux communs ou pas ?
Je crois que malgré tout, les Américains, à l'heure actuelle, n'ont pas intérêt à véritablement couper le lien avec la Turquie et à détruire cette alliance qui remonte quand même à la guerre froide, à 1946 plus exactement.
Tout ceci va en plus très loin, puisque la Turquie est le seul pays à entretenir un traité militaire en bonne et due forme avec Israël.
En plus, donc une alliance effectivement triangulaire, États-Unis, Israël, Turquie. Mais en même temps, il y a tout un certain nombre de lobbies aux États-Unis, de certaines forces, on va dire, qui ont été très mécontents de la non-participation et du refus de la Turquie en 2003 du passage des troupes américaines. Et ça, on le voit bien lors du vote de la motion pour le génocide arménien. Des gens qui soutenaient, je pense notamment au sénateur Tom Lantos, ancien rescapé de l'Holocauste, qui pendant des années a été l'un des fervents supporters de la Turquie au Congrès, et qui maintenant soutient les motions arméniennes au motif qu'il faut punir la Turquie de s'être opposée à la guerre en 2003.
Vous nous avez répondu sur la position américaine à l'égard de la Turquie, le maintien ou non de l'alliance. Qu'en est-il des Turcs eux-mêmes vis-à-vis des États-Unis ?
Est-ce qu'il y a une montée de l'anti-américanisme ?
Oui, vous savez...
Pas simplement dans le peuple, mais aussi dans l'élite.
Oui, dans les élites. L'anti-américanisme est consubstantiel à la Turquie. Ça a toujours été... Je me souviens d'avoir lu un rapport d'attaché militaire français d'un colonel dans les années 60 qui disait que le peuple turc était naturellement xénophobe. Bon, ce n'est pas injurieux de dire ça, mais il y a une naturelle méfiance vis-à-vis de tous les étrangers. Donc... Surtout pour les États-Unis, surtout pour les grandes puissances. Mais je pense pas qu'il y ait de rupture nette avec les États-Unis.
Philippe Christel, vous pourriez simplement revenir sur les soupçons d'intervention du BND que vous avez cité. A priori, on est plutôt étonné de voir le BND, nonobstant les liens historiques entre la Turquie et l'Allemagne, mais le BND, pourquoi ?
Le BND, pourquoi ? Puisqu'en fait, ce serait un groupe... Alors, on trouve ça sur Internet. Il y a eu un article qui est paru sur le sujet. Bon, et on se trouve aussi ça dans pas mal de sources en Turquie. Puisqu'en fait, il s'agirait de déstabiliser l'Iran et d'employer donc certains groupuscules kurdes et de les armer. Mais en même temps, ces groupuscules kurdes sont peut-être actifs en Iran, mais aussi en l'est de la Turquie. Donc ce sera l'objectif qui serait recherché.
C'est le nouveau coup de billard à 15 bandes de la CIA avec ses alliés, où on commence par armer un certain nombre de gens qui finissent par envoyer des avions sur le World Trade Center.
Voilà, d'autant plus qu'il faut savoir qu'en mars 2003, à Bagdad, le BND était présent, alors que le gouvernement allemand avait pris position contre la guerre en Irak, et bien les services secrets allemands continuaient à informer l'armée américaine, à Bagdad même.
Sur le conflit en ce moment, est-ce que ces accrochages, à votre avis, vont s'accélérer ? Est-ce qu'on va vers vraiment une guerre ? Ou est-ce qu'on va en fait avoir quelques accrochages irrégulièrement sur le terrain ?
Je pense que les tensions vont augmenter et on va arriver à un point de non-retour. Si les Américains ne prennent pas la responsabilité de réduire eux-mêmes les bases du PKK dans les montagnes du Kandil, dans les monts du Kandil, eh bien on peut s'attendre à une intervention turque. Il y a une telle exaspération, et notamment au sein de l'état-major, qui saisira l'occasion aussi pour régler ses comptes avec les politiques en disant que les politiques sont irresponsables.
Et on risque peut-être d'avoir enfin une situation un peu à la libanaise, c'est-à-dire un terrain de jeu pour plusieurs forces qui vont...
Parfaitement, mais il faut savoir que les interventions turques en Kurdistan irakien ne sont pas nouvelles. Il y en a eu plusieurs dans les années 90, notamment les opérations d'Emir, les opérations Fer en 1995, qui n'ont pas été d'ailleurs de grands succès.
Écoutez, à moins que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter, Xavier Van Lier de Philippe Christel ou Olivier Lebrun, sur ce conflit en Turquie, je pense que Tangrat Josrod nous a bien éclairé sur cette partie. Donc, nous allons passer à notre troisième partie.
Moi, j'ai une dernière question. Il est responsable de l'Observatoire des mondes turcs et des relations euro-turques pour la lettre Sentinelle. Où peut-on se procurer cette revue, Tangrat Josrod?
Oui, alors vous pouvez se procurer cette revue au 36 rue Schaeffer, 75 016 Paris. Et donc, vous pouvez vous y abonner à un abonnement découverte de 2 numéros pour 30 euros.
Donc, je répète pour les auditeurs.
Xavier Van Lierde va nous répéter.
Donc, il s'agit de la lettre Sentinelle. Il faut écrire donc à la lettre Sentinelle, 36 rue Schaeffer, 75 016 Paris. L'abonnement découverte est donc proposé. L'abonnement découverte de 2 numéros est proposé pour 30 euros. C'est bien ça, Tangrat Josrod?
Exactement.
Voilà, donc avant de passer à notre troisième partie, nous allons entendre notre message traditionnel pour le déjeuner de Radio Courtoisie.
Le samedi 10 novembre, nous célébrerons le 20e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Samedi 10 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez déjeuner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Jean Ferré. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 50 euros par couvert à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au samedi 10 novembre, à midi, pour déjeuner ensemble à la Mutualité et décerner le prix Jean Ferré de l'année 2007, 20e anniversaire de Radio Courtoisie.
Donc, cette troisième partie qui est cette partie culturelle que je vais vous présenter, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes toujours effectivement dans le libre journal de la vieille Europe. On va commencer par la Russie, mon cher Philippe Christel, c'est incroyable. Je n'ai pas fait exprès, hein. C'est sincèrement dans mes notes, c'est vraiment juste après la Turquie, j'ai une expo russe. C'est simplement pour rappeler à nos chers auditeurs de la radio que j'avais parlé il y a un mois d'une exposition russe à Paris qui était Sotar, art politique en Russie. Cette exposition que j'avais annoncée mais que je n'avais pas vue, elle commence bien car on parle déjà d'une censure de la part des autorités russes, ce qui prouve bien, mon cher Philippe Christel, le recul de la démocratie en Russie. Et effectivement, sur la liste des œuvres présentées à la douane ont été rayés les tableaux les plus controversés. Alors pourquoi cette monstrueuse censure? Alors d'une part, cette exposition qui est représentée par l'État russe, elle a puisé ses œuvres dans des galeries privées qui ont toute liberté de les exposer en Russie dans leurs galeries. Et tout simplement, le directeur de l'Agence fédérale de la culture, Mikhaïl Tchitkoï, reconnaît qu'il a lui-même proposé de ne pas envoyer à Paris certaines œuvres. Alors effectivement, les idiots utiles ont tout de suite hurlé. Alors effectivement, il a vivement conseillé de laisser en Russie, par exemple, le tableau représentant nu le président ukrainien Viktor Chernenko et son ex-premier ministre Yulia Tymoshenko. A été refusé aussi, par exemple, des portraits d'Hitler avec des croix gammées. Donc, encore une fois, nos amis idiots utiles vont nous faire toute une histoire pour cette terrible censure. Il faut savoir qu'ils ont hurlé avant de voir les tableaux. Hein. Pour deux ou trois tableaux, et vont nous parler encore d'une censure poutinienne. Sincèrement, remarquez, j'avoue que j'aurais bien aimé voir ce fameux tableau du chef de la Révolution orange nu en train de débattre avec sa Premier ministre. Je pense que ça aurait été intéressant.
De débattre ou de s'ébattre ?
De s'ébattre et de débattre, à mon avis. C'est toute la démocratie ukrainienne qui est représentée, je pense, dans ce tableau. Donc, si vous n'aurez pas, malheureusement, la possibilité de voir ce tableau, mais si l'art politique en Russie vous intéresse, c'est Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert, c'est 10 boulevard de la Bastille, dans le 12e arrondissement, et du 21 octobre au 20 janvier. Voilà pour mon... Bon, pas mon coup de gueule, hein, c'était juste une information un peu marrante de voir nos ennemis et nos ennemis anti-poutiniens qui ont toujours de très bons arguments contre la démocratie russe. On va parler un peu de lecture et on va partir en Italie pour Mon frère et fils unique d'Antonio Penacci. Alors ce livre qui est aussi un film qui vient juste de sortir depuis un mois au cinéma est une petite merveille d'humour et de cynisme. Dans l'Italie d'après-guerre, la chronique d'un jeune homme un peu rebelle dans une famille d'ouvriers de gauche qui s'engagera dans le MSI fasciste pour terminer chez les maoïstes. Alors un roman de mœurs à l'italienne qui vous plongera dans une jeunesse italienne qui considère que dans la vie tout est politique. Un vrai bonheur par rapport à notre jeunesse française, enfin notre jeunesse française actuelle. Donc Mon frère et fils unique d'Antonio Penacci aux éditions Le Dilettante. Est-ce que Olivier Lebrun, je crois que vous aviez quelques coups de cœur littéraire
Oh, pas littéraire, non, c'est un essai historique.
Un catalogue ?
Pas un catalogue, non.
Un essai historique.
On va éviter la petite vermillon pour cette émission. Non, liquider.
Nous allons sortir de la littérature des années 50-60.
Tout à fait, on va sortir des hussards et je ne citerai pas Paul Morand, je vous promets. Non, liquider les traîtres, la face cachée du Parti communiste français.
Jean-Pax Meffray, ça aurait été.
Non. Bon. Liquider les traîtres, donc la face cachée du Parti communiste français 1941-1943 chez Robert Laffont. Alors, ce livre très intéressant, il est basé sur l'ouverture des archives des RG en France. Il revient sur une histoire qui est bien connue de tous ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir des parents communistes, c'est-à-dire il revient sur quelques vérités qu'on fait mine de redécouvrir aujourd'hui. En 1940, le Parti communiste a suivi aveuglément la ligne stalinienne du pacte germano-soviétique. En 1940, le PC a bien accueilli les soldats allemands. En 1940, le PC a demandé la réparation de l'humanité très officiellement. Maurice Thorez a déserté, les communistes ont saboté les usines d'armement alors que la France venait d'entrer en guerre, et Guy Mocquet, lorsqu'il a été arrêté, n'était pas résistant, mais propagandiste du Comintern.
Ah, je savais bien que c'était pour en arriver sur Guy Mocquet.
Ah, mais oui, on arrive sur Guy Mocquet, c'est intéressant, on se raccroche à l'actualité. Le livre est passionnant, très sérieusement. Hein, ouverture des archives des RG, on a un peu toute la façon dont le PCF fonctionnait sous la clandestinité, comment il a poursuivi, fait assassiner, dresser des listes noires de ses propres déviants qui étaient souvent ceux qui avaient dénoncé la politique de collaboration du Parti communiste au début d'occupation. C'est très intéressant et aussi ça nous renseigne sur le positionnement d'un certain nombre d'apprentis sorciers. Chez les républicains, les nationaux républicains français, en particulier Henri Guénaud, le parolier de Nicolas Sarkozy, qui a fait une grande partie de son succès en écrivant ses discours, le discours de Versailles, le discours de Nîmes, le discours de Périgueux, les trois grands discours qui ont amené une grande partie de l'électorat de la droite nationale à faire confiance à Nicolas Sarkozy, en le prenant pour un nationaliste, un patriote et un homme politique féru de la France éternelle. Un Henri Guénaud qui a été à l'origine justement de la lecture de la lettre de Guy Mocquet et qui est le propagateur, par une certaine ignorance de l'histoire, d'une légende résistentialiste communiste dont toutes les études historiques sérieuses ont aujourd'hui démonter et démontrer la vacuité. Donc voilà, liquider les traîtres, donc la face cachée du Parti communiste français, ça n'apprendra pas grand-chose sur la base aux éditeurs de Radio Courtoisie, sauf peut-être aux auditeurs occasionnels, mais en tout cas, c'est fouillé, c'est basé sur des archives inédites, et c'est chez Robert Laffont.
C'est souvent en ce moment des archives inédites qui sortent comme ça, mais en tout cas...
C'est le principe de l'archive exhumée, hein,
c'est Christelle.
Juste pour rebondir, je me piquerai pas de critique littéraire, mais je suis pas certain que les électeurs de droite nationale se soient fait prendre au piège des discours d'Henri Guénaud à Périgueux, Lunéville et Thonon-les-Bains. Je ne sais plus quelles sont les villes que vous avez citées. Je pense que
Périgueux, Versailles et Nîmes.
C'est ça, c'est charmante cité balnéaire. Et donc, ce qui les a fait changer d'avis, me semble-t-il, c'est d'en avoir ras-le-bol du cul-de-sac permanent. On est passé du coup d'état permanent au cul-de-sac permanent.
Mais les deux sont liés.
Et deuxièmement, Philippe, si vous voulez bien, c'est la mention d'identité nationale. Et cette mention d'identité nationale, on ne la doit pas à Henri Guénaud, on la doit à Patrick Buisson.
C'est vrai, c'est une bonne analyse, Christelle.
Je pense que les deux phénomènes sont liés. En tout cas, les gens qui ont choisi cette option sont aujourd'hui cocus.
Oui, et puis un troisième phénomène, c'est qu'au moment même où Nicolas Sarkozy, sur les conseils de Besson ou de Guénaud, s'emparait du thème de l'identité nationale, ceux qui s'en étaient fait une spécialité pendant 20 ans l'ont abandonné subitement. Ça a probablement aussi aidé un petit peu le processus.
C'est-à-dire que si on imagine un marchand de yaourts qui vend des yaourts, le jour où un type qui vendait des crèmes glacées se met à vendre des yaourts, le type qui vend des yaourts arrête de vendre des yaourts. Et il s'étonne que plus personne n'achète ce qui lui reste de yaourts. Ben voilà. C'est QFD.
Voilà, Olivier Lebrun.
Expliqué.
Ça me semble encore plus clair dans le spectre électoral.
Mon cher Olivier Lebrun, tout ce que vous êtes arrivé à faire, c'est que cette partie culturelle est partie en. Mais en tout cas.
Tout ce qui est excessif est insignifiant.
Patrick, j'ai une bonne nouvelle sur la francophonie.
Oh bah écoutez, alors dans ce cas-là, je vous écoute.
Vous savez que Radio Courtoisie est en pointe sur la francophonie. Et cette radio a bien raison de le faire. Le président Nicolas Sarkozy a déclaré jeudi dernier qu'il prenait des cours d'anglais pour surmonter la barrière de la langue avec ses collègues étrangers, tout en invitant les représentants de l'État à s'exprimer exclusivement en français lors des forums internationaux. « Je fais de l'anglais de temps à autre, pendant 10 ou 15 minutes, mais assez régulièrement », a-t-il avoué. « Pourquoi le fais-je ? Bien sûr, ce n'est pas pour intervenir en langue étrangère à l'occasion de manifestations internationales où il est toujours préférable de s'exprimer dans sa langue maternelle. Que les autres apprennent donc le français ? Je le fais pour pouvoir travailler normalement avec mes collègues, pour qu'il n'y ait pas de barrière linguistique, car on ne peut pas tout dire en présence d'un interprète. » Alors excusez-moi, parce qu'en fait c'est une blague, il faut remplacer Sarkozy par Poutine et français par russe. Voilà la dernière adresse de Vladimir Poutine à son gouvernement. Je demande à ce que les représentants de l'État s'expriment exclusivement en russe lors des forums internationaux. Moi, je fais 10 ou 15 minutes pour pouvoir parler de vélo avec George Bush ou des derniers désavantages, des amours de la famille royale britannique avec
Space
Gordon
ribs.
Space ribs pour pouvoir prendre le barbecue chez George Bush quand Nicolas et Cecilia sont partis. Voilà quelqu'un qui défend sa langue et qui a une stratégie de puissance sur tous les sujets que la francophonie s'en inspire avec Radio Courtoisie.
Je vous admire, Philippe Ressel, parce que vous arrivez à chaque fois à trouver des chemins pour parler de notre cher,
mais qui le fait,
cher président
qui
Vladimir
le fait
Poutine.
Si
c'est
nous ne
incroyable.
Le faisons pas, Patrick, qui le fera ?
Il est vrai. Moi, je vais continuer un peu
la
à essayer.
De la pensée.
Je vais essayer.
Et l'industrie du yaourt en Russie.
Je vais essayer un peu de reprendre le chemin de la culture avec un ou deux livres peut-être qui intéresseront nos auditeurs. Je vais vous parler alors là d'un endroit que mon cher Philippe Christel...
Que les moins de 20 ans, non ?
Non, bon, tout le monde peut connaître, hein, c'est la Corse.
vous voyez
hein, un livre étonnant qu'il faut à tout prix lire, qui est d'un historien qui s'appelle Jean-Pierre Poli, qui a fait un livre sur les autonomistes corses.
Il l'a mis 45 ans à
l'écrire. Et les irrédentismes fascistes.
Est-ce que les archives sont inédites ?
Les archives ne sont pas inédites, c'est simplement que personne n'avait écrit sur ce sujet. Voilà.
C'est des archives qui n'ont pas encore été écrites, qui viennent d'être révélées.
Sérieusement, ce livre de Jean-Pierre Poli me fait énormément penser quand je l'ai terminé à cette collaboration qu'avait eu Olier Mordrel en Bretagne avec les Allemands, c'est-à-dire ces autonomistes et ces régionalismes qui ont cru à un moment que pendant la guerre, il suffisait de se mettre avec l'ennemi de son ennemi pour pouvoir avoir sa propre indépendance. Donc effectivement, en Bretagne, Olier Mordrel, c'était comme on peut dire, c'était fait un peu avoir par les Allemands.
Il a dû déplacer 347 bonshommes en pleine.
Non, il a surtout.
En plein exercice, hein. Donc,
il a surtout.
C'est quand même, on est dans l'anecdotique du chirurgical, hein.
Oui, mais il a surtout. Mais Olier Mordrel est un grand intellectuel breton, mon cher Philippe.
Oui, dans la partie culturelle. Philippe, nous avons quitté la géopolitique, nous sommes dans la phase culturelle.
Et son problème, c'est qu'il a eu les pires ennuis avec les Allemands. Et Jean-Pierre Poli. En fait, a fait le même travail, mais en Corse, où certains autonomistes corses,
travaillent en Corse,
Petru Rocca, qui avait décidé de s'allier avec les fascistes italiens, pensant que les Italiens étaient prêts à donner l'autonomie à l'île de Beauté. Et effectivement, il y a eu exactement le même problème où les Italiens se sont servis de ces autonomistes pour prendre le pouvoir sur l'île. Et c'est une très belle enquête. C'est une très belle enquête qui a été faite avec effectivement, comme dirait Olivier Lebrun, des documents inédits. Donc voilà, pour les gens qui aiment la Corse, qui aiment les autonomistes et qui aiment le régionalisme, c'est un bouquin que je vous conseille. Donc c'est Autonomistes de Corse et irrédentistes fascistes de Jean-Pierre Poli au DCL édition 1920-1939. C'est une période d'histoire qu'on connaît très peu de ce coin de France. malheureusement, car la Corse est encore en France. Donc, je vois que je n'ai pas passionné mon auditoire autour de moi sur ce livre, mais enfin, j'espère que les auditeurs de Radio Courtoisie auront bien noté mon conseil. Je peux vous parler de musique, Philippe Christel, normalement. Allons-y. Ça vous plaît, la musique. Alors, la Cité de la Musique, qui, rend hommage, non, à Richard Wagner. La Cité de la Musique
Corse
à Paris.
Bien connue de nos services.
La Cité de la Musique à Paris présentera du 25 octobre 2007 au 20 octobre 2008 l'exposition Richard Wagner, Vision d'artiste. Réalisée par le Musée d'art et d'histoire de Genève, celle-ci s'appuie sur des prêts exceptionnels provenant des collections publiques et privées. Donc de l'impressionnisme de Renoir au surréalisme de Dalí, c'est donc tout un panel de mouvements artistiques de l'art occidental qui sera représenté. Les visiteurs vont traverser ensuite des petites cabines thématiques centrées autour de l'œuvre de Wagner. Vous aurez une troisième salle qui se fera le témoin de la récupération de Wagner par le régime nazi. Alors effectivement, on pouvait pas y échapper. Chaque exposition sur Wagner, on a le droit à ce genre de salle qui va. Alors j'aimerais une petite précision. Cette récupération s'est faite aussi sur l'invitation de la famille Wagner elle-même. Hein, les nazis n'ont pas récupéré Wagner. Les Wagner ont été. La famille Wagner a été pro-national-socialiste. Faut quand même le dire dans les deux sens. Donc elle évoquera également les réactions que. Et c'est peut-être la chose la plus intéressante. Elle évoquera également les réactions que ce phénomène a entraîné dans les milieux culturels allemands. Enfin, une dernière salle est consacrée à la projection d'extraits de 9 films faisant appel à la musique de Richard Wagner. Des informations sur les opéras de Wagner rythmeront l'exposition. Donc je vous conseille d'y aller. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une belle exposition sur Richard Wagner à Paris. Donc à la Cité de la Musique, c'est du 25 octobre 2007 au 20 janvier 2008. Vous savez quel événement qu'il va avoir pour tous nos chères têtes blondes d'ici quelques jours, c'est le dernier volume des aventures du petit sorcier qui sort bientôt en France, Harry Potter. Alors la créatrice de la saga J.K. Rowling, lors d'une tournée de lecture à New York samedi dernier, après avoir fait une brève lecture publique du dernier tome de la série, c'est Harry Potter et les reliques de la mort, elle a répondu ainsi à un jeune garçon qui lui demandait si Dumbledore, alors pour ceux qui ne savent pas Dumbledore, c'est le grand sorcier qui était un peu le directeur de l'école, est-ce que Dumbledore, qui doit avoir dans la série entre 70 et 80 ans, était déjà tombé amoureux. Et J.K. Rowling a répondu que Dumbledore était homosexuel. Alors, détail qui n'était pas dans les livres. Et activistes...
Mais Dumbledore, c'est un personnage positif dans cette saga ou personnage
plutôt, c'est directeur de poule d'art.
C'était un peu un gentil.
Je vois mieux.
Alors, les activistes
c'est
gays...
C'est qui poule d'art? Je connais Fildar, ouais,
c'est l'école des sorciers.
Attendez, mon cher Philippe Christel, je pense que vous connaîtrez Harry Potter quand vos enfants vont commencer à le lire, enfin, si vous avez décidé qu'ils le lisent. Parce que les activistes gays au Royaume-Uni ont tout de même regretté que cet élément de la personnalité du directeur de poule d'art n'ait pas été plus explicite à l'intérieur même du récit. Alors effectivement, ça tombe sous le sens qu'il faut expliquer les tendances sexuelles de nos héros préférés, parce que Tintin, Astérix, le Club des Cinq, par exemple, j'ai toujours pensé, par exemple, vous avez dû lire, mon cher Xavier Van Leer, le Club des Cinq, que Claude, on aurait plutôt une tendance à penser qu'elle était un peu proche des filles et un peu lesbienne.
Ah mais moi je crois que c'était un homme.
Et je rajouterais qu'il est dommage que dans les livres d'Harry Potter, il n'y ait pas assez de détails sexuels entre Harry Potter et ses petits camarades.
Mais ils n'ont pas 12 ans, le Club des Cinq?
Problème. Ils ont 7 ans. Et j'espère qu'à la fin du dernier. Et j'espère qu'à la fin du dernier tome d'Harry Potter, on aura un peu plus de droit au débat sexuel de nos petits héros.
Et dans Oui aussi.
Donc je suis sûr que cela plaira à nos chères têtes blondes.
Et le prince Eric.
En tout cas, la bêtise humaine n'a pas de tendance sexuelle. Et je trouve ça quand même scandaleux de la part d'un auteur qui, devant des enfants, soit obligé de préciser la tendance sexuelle d'un de ses héros. C'est comme si on avait demandé à Hergé si Tintin ou le capitaine Haddock avaient des tendances. J'irais même pas jusqu'à là, tellement je trouve ça complètement ignoble. Et alors le pire, c'est que les associations gays du Royaume-Uni commencent à prendre parti et demandent simplement qu'on le dise dans le texte. Il faut maintenant que dans les textes, et je pense qu'il y aura des rajouts dans les prochains livres. Donc
là, c'est fini, là, c'est le dernier numéro, non?
Oui, mais le dernier numéro n'est pas encore sorti. Alors, je vais simplement demander quelque chose qui sera peut-être pas écouté, mais qu'on boycotte le dernier livre d'Harry Potter, parce que quand on commence à se lâcher
plus que les précédents.
Oui, bah, c'est possible, oui. D'accord. Oui, vous pouvez, hein, vous pouvez. C'est-à-dire que, mon cher.
Si vous n'avez pas encore acheté les précédents, si vous ne les achetez pas non plus.
Les précédents, vous ne l'achetez pas du tout. Donc, dans ce cas-là, je pense
que. Je refuserai de l'acheter deux fois.
Voilà, donc si vos enfants vous le demandent, il faudra être dur de votre côté sur le plan de votre éducation, parce que je pense qu'un auteur qui dérape à ce point-là, ça devient quasiment lamentable, en sachant qu'elle s'adresse à des enfants.
Mais donc,
vous avez peut-être un petit commentaire, non ? Harry Potter, vous
l'aviez ? Non, enfin, du coup, je pense qu'il faut repartir sur des valeurs sûres, comme, je sais pas, moi, effectivement, Tintin ou Black et Mortimer, non ?
Ou Le Prince Eric.
Alors, en parlant de BD,
allez-y, Philippe
Vestel. Je tiens à vous annoncer une bonne nouvelle. Ceux qui sont lecteurs de la bande dessinée de Torgal ont découvert avec stupéfaction que l'avant-dernier numéro allait être le dernier. Eh bien non, il y a un nouveau numéro et donc on s'est reparti pour un autre cycle de la BD de Torgan. Le dernier opus s'appelle Moi Jolan. Jolan, c'est le fils de Torgal. Toujours aux éditions du Lombard. Et en tant que BD-phile de cette émission... devant le mépris souverain, hein, néanmoins, de mes collègues de co-animateurs, parfois, je maintiens que cette BD est passionnante. Le graphisme reste le même, le scénario est toujours aussi épique, et c'est un monde d'imaginaire qui nous plaît bien, et ce sont des belles images. Donc je recommande, et pour le coup, pas de doute, pas de sujet, pas de préoccupation sur quelque idée malsaine que ce soit. Je recommande l'achat de ce nouvel opus de Rosinski qui s'appelle Moi Jolan.
Écoutez, on va vous écouter, Philippe Christel. Alors en parlant de BD, je veux un petit coup de chapeau au Monde. Le journal Le Monde. Une fois n'est pas coutume. Qui a fait une très belle collection de mini-albums de Black et Mortimer qui sort chaque semaine. Et il y avait un entretien vous savez, ils ont un supplément, le Monde, qui s'appelle Le Monde 2.
Oui.
Et effectivement.
Qui est généralement épouvantable d'ailleurs.
Qui est effectivement. Ça dépend. Non, il faut avoir un peu d'objectivité. Lors de cette sortie, des Black et Mortimer, a fait un long dossier sur la BD de Jacob.
Blake and Mortimer.
Oui, mais moi, en tant que Français, je dis Black et Mortimer. D'accord. Vous voyez ? Bon, c'est un peu. Voilà.
C'est votre côté rugby.
C'est mon côté rugby, c'est vrai. Et on apprend dans un interview que Hubert Védrine, notre ancien et notre peut-être
regretté
l'un de nos meilleurs ministres,
le seul.
D'accord, le seul depuis Vergennes. Je vous suis.
Le seul depuis Vergennes, mon gars.
Le seul. Hubert Védrine est un passionné de BD et de Black et Mortimer. Et vous avez un long interview où il nous explique. Alors les journalistes sont toujours très marrants, ils essayent de trouver dans la BD de Black et Mortimer la géopolitique. C'est grâce à cette lecture que Hubert Védrine serait devenu diplomate. Lui, il le dit pas du tout.
C'est grâce à Bainville, mon vieux.
Ce qui m'intéressait, c'était l'aventure. Je n'ai jamais eu la moindre hantise sur le nucléaire. À l'époque, tout était beaucoup plus simple. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur les identités, pas de confusion sur le rôle des peuples ni sur celui des personnes. Jacob met en scène un Anglais, un Indien, un Sikh. Dans la dernière aventure de Black et Mortimer, on voit le Japon, mais un Japon occidentalisé, dompté, vaincu et finalement intégré. Donc on apprend comme ça, et je pense que ça doit faire plaisir à Philippe Christel, qui a une grande admiration pour Hubert Védrine. Vous avez une passion en commun, c'est la bande dessinée. Olivier Lebrun, je crois que vous êtes perplexe sur...
Non, pas du tout.
Sur la vertu éducative de la bande dessinée.
Non, pas du tout. Pas
vous
du
avez
tout.
Si, quelque chose alors à nous
si
présenter.
Si je m'écoutais, d'ailleurs, je vous conseillerais aussi une bande dessinée. Non.
Non, attends, on va essayer de...
Vous avez largement
autre chose à nous présenter.
Je voulais vous parler d'un mensuel qui est cher à nos cœurs, enfin à certains d'entre nous autour de cette table. Le choc du mois. Le choc du mois vient de nouveau numéro vient de sortir. Nouveau numéro avec un copieux dossier sur le pouvoir des médias. Toujours d'actualité et d'autant plus d'actualité que nous sommes rentrés dans une présidence médiatique, une présidence qui instrumentalise et qui se sert avec une virtuosité rarement atteinte justement de ce pouvoir totalitaire des médias et du pouvoir absolu qu'il a pris sur l'esprit de la population française en ce début du 21e siècle. Donc un dossier sur le pouvoir des médias dans le choc du mois, qui a inauguré une formule plus dynamique, si c'était possible, avec plus de reportages, et on on distinguera ce mois-ci une interview de Frédéric Taddeï. Frédéric Taddeï, donc vous le connaissez, c'est ce journaliste que, comme dit le choc du mois, qui laisse parler ses invités. C'est chez Frédéric Taddeï qu'on peut entendre Alain de Benoît, qu'on peut entendre Dominique Vénère.
Hier soir, Dominique Vénère. Une excellente émission sur Poutine.
Et surtout, c'est pas moi. C'est vous là.
C'est vrai que c'est moi. C'est il y a eu une excellente émission sur Poutine avec Dominique Vénère. Il y avait Jacques Sapir. Il y avait Georges Niva. Et franchement, ça fait plaisir de temps en temps à la télé d'avoir une émission qui soit aussi objective que le libre journal de la vieille Europe.
Alors vous comprendrez en lisant
voilà, billet pour l'hiver.
Voilà. Vous comprendrez en lisant donc le dernier numéro du choc du mois, cette longue interview de Frédéric Taddeï, pourquoi ce journaliste détonne un peu et pourquoi il y a encore un petit vent de liberté qui s'ouvre dans certaines émissions. C'est très surprenant cette interview. Donc je vous conseille ce dernier numéro du choc du mois. Puis il y a pas que ça, il y a toujours une partie culturelle qui est extrêmement intéressante. Voilà, le choc du mois, le pouvoir des médias. Dernier numéro.
Puisqu'on en est au coup de cœur, moi je propose qu'on
va demander à Torgrat Jostra.
Voilà, notre invité, il a peut-être aussi un coup de cœur. Il lit pas le choc du mois, mais il a peut-être un autre.
Effectivement, non, ce n'est pas, pour une fois, ce ne sont pas de livres turcs, mais un livre français qui n'a rien à voir avec la Turquie. C'est le livre, dernier livre d'Aude de Kéros, L'art caché ou les décidants de l'art contemporain. Donc ce livre aux éditions Erol qui traite de la genèse et des méfaits de l'art contemporain et qui est une synthèse assez remarquable et magistrale sur un sujet qui a relativement été peu traité en France.
Je me trompe si je dis qu'Aude de Kéros a été invité sur...
Oui, je crois que c'est un coup de cœur généralisé de beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie et qui effectivement est un excellent livre. Xavier Van Lierde, vous l'avez...
Oui, non, juste pour compléter, allez, puisque vous avez cité Dominique Vénère, rappelez que si Dominique Vénère a été interrogé, retenu dans le groupe des invités de Frédéric Taddeï, c'est puisqu'il vient de faire reparaître un de ses livres les plus brillants, Les Blancs et les Rouges, où il fait une synthèse impressionnante, parce que quasiment la seule à ce jour, de la guerre civile russe dans la période 1917-1920. Et cette réédition, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est réédité au Rocher.
L'édition du Rocher.
Ah, c'est ça, c'est l'édition du Rocher. L'édition précédente était chez Pygmalion. Mais donc, Les Blancs et les Rouges de Dominique Vénère, et c'est ça qui avait déclenché, si j'ose dire, son invitation auprès du bon Taddeï.
En dehors, effectivement, de son excellent livre, il est quand même appréciable de temps en temps de voir des auteurs comme Dominique Vénère, parce qu'il suffit pas de rééditer un livre, même s'il est excellent, pour passer dans une émission de télévision. Donc là, je vous rejoins sur le coup de cœur de Dominique Vénère. Un autre coup de cœur autour de la table Rien du tout. Écoutez, moi j'ai un petit livre. Non, c'est simplement c'est pas culturel, mais c'est un excellent livre qui est Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. C'est fait par deux professeurs d'université américaine. Et ce qui est intéressant entre les rapports entre la politique américaine et Israël, c'est que cette fois-ci, on a vraiment une thèse qui vient des États-Unis et non pas un auteur sulfureux français qui aurait envie de jouer avec...
Les deux auteurs ont quand même eu quelques ennuis.
Ils ont eu quelques ennuis. Mais ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est quand même aux éditions La Découverte. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui est complet, et pour une fois, et qui, pour un livre universitaire, se lit très, très facilement et est très clair, et qui déroutera, à mon avis, beaucoup de gens sur, effectivement, ce fameux ce fantasme du lobby pro-israélien qui n'est pas forcément dans le sens où on le voit. Mais voilà, c'était un petit coup de cœur. Voilà.
Puisqu'on est revenu à la géopolitique, moi j'ai un coup de cœur qui n'est pas tout à fait littéraire, mais même s'il s'agit d'une lettre, d'une lettre ouverte qui a pour thème le patriotisme économique. On sait qu'en France, on avait poussé des cris d'orfraie lorsque du temps du gouvernement Villepin, ce terme avait été avancé. Or, récemment, deux personnalités canadiennes ont prôné ce que l'on peut appeler un patriotisme économique canadien. Ce ne sont pas des personnalités parmi d'autres. Il s'agit de Roger Martin, doyen de la Rotman School of Management, une des plus grandes écoles de management canadiennes. Et le second, c'est Gordon Nixon, président et chef de la direction de la Royal Bank of Canada. La lettre commence ainsi. C'est avec une grande inquiétude, écrivent-ils, une inquiétude croissante, que les Canadiens assistent au rachat massif par des sociétés étrangères des fleurons de leur industrie dans des secteurs historiques du Canada.
Ce phénomène a été qualifié d'évidement, parce qu'à mesure en effet que les sociétés canadiennes et les sociétés ayant un siège social au Canada ont été achetées par des intérêts étrangers, eh bien des emplois de sièges sociaux, des inscriptions en bourse, des recettes fiscales et des dons aux organismes de bienfaisance disparaissaient, ce qui revenait, écrivent les auteurs, à vider le Canada de sa souveraineté économique. Cet évidement, bien évidemment, les auteurs poursuivaient, n'est pas un phénomène seulement canadien, c'est un phénomène mondial, tant et si bien qu'ils considéraient que ce phénomène de rachat et de concentration des industries ne pouvait être comparé qu'à la révolution industrielle du 19e siècle. Et ils mettaient en garde en précisant que les nations qui conquéraient lors de ces grandes phases de mutation, de transformation des positions stratégiques dominantes, qui tiraient leur épingle du jeu, eh bien, assuraient leur domination pour les décennies à venir. Et pour faire un contrepoint, ils s'en prennent ensuite à cette thèse largement répandue, qui est une thèse qui vise à endormir les vigilances nationales. La thèse de Thomas Friedman, vous savez, qui nous expliquait que « the world is flat », la Terre est plate, tant et si bien, eh bien que les richesses, la mondialisation aboutissaient à étaler les richesses à la surface de la planète comme du beurre à la surface d'une tartine. La thèse de Gordon Nixon et de Roger Martin est au contraire que le monde plat est hérissé de pics économiques pour la simple raison que lorsqu'on se crée des champions nationaux, eh bien autour de ces champions nationaux s'agrègent des grappes de sociétés, de compétences, que les talents sont attirés par ces pics économiques qui brillent à la surface de la planète, tant et si bien que les inégalités s'accroissent. Et que plaidait-il dans cette lettre ouverte? Eh bien, pour que le Canada prenne un certain nombre de mesures. Première mesure, arrêter d'écraser les sociétés canadiennes d'impôts, de règles sociales restrictives qui brident leur dynamisme. Deuxième règle, contrôler les investissements étrangers. Et enfin, troisième règle, soutenir les champions nationaux pour qu'ils partent à la conquête de nouvelles positions dominantes dans l'économie mondiale. Nous serions bien inspirés de suivre ce conseil et de l'appliquer pour la France. En l'espèce, les deux personnalités canadiennes mettaient en garde, si ce programme n'est pas appliqué, eh bien le Canada sortira de l'histoire. Qui pourrait dire qu'il n'en sera pas de même de la France et de l'Europe si nous n'appliquons pas ce programme?
Merci à vous tous et merci Xavier Van Liert pour cette conclusion brillante, et à Philippe Christel et Olivier Lebrun, et à notre invité Tancrède Josserand. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines, le mardi 20 novembre, pour un nouveau Libre Journal de la Vieille Europe. Bonsoir à tous.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.